Radio Okapi.
Le journal Bibi Mkonkole.
Okapi.
Le CICR lance un appel aux parties en conflit dans l'est de la RDC pour le respect du droit international. Cette organisation rappelle que les attaques diverses directes vers la population civile sont interdites. Arrivé de Ban Ki-moon hier après-midi à Kigali, le patron de l'ONU a annoncé dans un point de presse à Goma l'arrivée d'ici 2 mois de la brigade d'intervention de l'ONU dans l'est du pays. Déclaration faite avant l'étape de Kigali. Le numéro 1 de l'ONU intervient dans cette édition. 5 ans depuis que Jean-Pierre Bemba est en détention à la CPI aux Pays-Bas, il est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Notre correspondante à La Haye fait le point sur ces 5 ans de cheminement du sénateur Bemba. Bonjour. Direction le Nord Kivu. Une trêve est observée sur le terrain dans les combats qui opposent depuis mardi les FARDC aux rebelles du M23. Mais cela n'empêche pas le CICR d'exprimer sa préoccupation face à la reprise des hostilités qui met à mal la vie des populations civiles. Son porte-parole en RDC lance ainsi un appel aux parties en conflit, les invitant à respecter en tout temps le droit international humanitaire et à faire la distinction entre la population civile et les combattants. Qu'est-ce que signifie cet appel, qu'est-ce qui justifie cet appel? On écoute Annick Bouvier, porte-parole du CICR en RDC, au téléphone de Pelé Kipelamondo.
Les 21 et 22 mai, des tirs d'obus ont directement touché des zones habitées au nord de la ville de Goma. Dans ces quartiers vivent des milliers de personnes, parmi lesquelles des déplacés originaires d'autres localités qui sont venus se réfugier à ces endroits suite à de précédents affrontements. Aujourd'hui, habitants et déplacés se retrouvent à nouveau pris entre deux feux au péril de leur vie. C'est pourquoi le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que les attaques directes contre la population civile et les biens civils, de même que les attaques indiscriminées, sont interdites. Les parties au conflit doivent en tout temps respecter le droit international humanitaire et faire la distinction entre la population civile et les combattants.
Et puis le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Banque mondiale sont arrivés dans l'après-midi à Kigali. Avant la rencontre avec le président Paul Kagame, le patron de l'ONU a visité un village qui accueille une trentaine d'anciens combattants blessés de guerre et leurs familles, issus de divers camps s'étant affrontés au Rwanda. Avant l'étape de Kigali, Ban Ki-moon a notamment animé une conférence de presse à Goma. Il a à cet effet déclaré que la brigade d'intervention de l'ONU sera prête d'ici 1 à 2 mois. À travers cette brigade, les Nations Unies vont plus loin pour imposer, si nécessaire, la paix d'après le numéro 1 de l'ONU. Pour ce faire, les Nations Unies ont misé toujours, selon Ban Ki-moon, sur la qualité des effectifs qui formeront cette brigade ainsi que sur les équipements. On écoute le patron de l'ONU dans ses propos recueillis par Denise Lukeso.
Cette fois-ci, nous allons au-delà du mandat traditionnel des opérations de maintien de la paix. Le mandat est particulier parce qu'il veut imposer la paix lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire avoir une approche proactive vis-à-vis de la paix pour imposer cette paix. C'est la raison pour laquelle nous avons un équipement robuste, des troupes très bien formées de ces quelques 3000 soldats. Et je crois que avec ces troupes, nous serons en mesure de redresser la situation dans la région. Nous allons diligenter nos efforts visant à déployer cette brigade d'intervention. Elle sera déployée le plus rapidement possible. Le premier commandant a déjà été nommé. Je crois qu'il est déjà présent ici. Le président sud-africain a promis d'envoyer ses troupes rapidement. Même si cela ne prendra pas trop de temps, je ne puis pas vous donner une date précise quant à la date d'opérationnalisation de ces troupes. Peut-être dans les 2 mois. En tout cas, ceci sera décidé par le commandant et le département des opérations de maintien de la paix, ainsi que par M. Roger Miss, le représentant spécial. C'est eux qui vont coordonner tout cela.
La brigade d'intervention pourra apporter une certaine sécurité, mais elle seule ne va pas résoudre les causes réelles de la violence en RDC, a averti dans un communiqué publié hier jeudi Johanna Trevor, directrice associée en RDC de la Confédération d'organisations Oxfam. Selon elle, il faut aussi investir, je cite, dans des forces de sécurité fortes et fiables, un pouvoir au service du peuple et un système judiciaire obligeant ceux qui violent les droits de l'homme à en rendre compte. Fin de citation. Nord-Kivu toujours, 15 personnes enlevées mercredi dans la soirée par les hommes armés non autrement identifiés à Kitaoura. C'est un village situé dans la collectivité secteur de Benimbao, à plus ou moins 20 km au nord-est de la ville de Beni. L'information a été livrée hier jeudi matin par des sources locales et confirmée par la société civile locale. Selon l'administrateur du territoire de Beni, les FARDC sont à la poursuite des assaillants. Depuis Beni, les détails avec Martial Papimoukeba.
Les 15 personnes enlevées sont essentiellement des hommes et des femmes. Selon des sources locales, mercredi aux environs de 20h, heure locale, un groupe d'hommes armés a investi les villages de Kitaoura. Les assaillants ont rassemblé une dizaine de personnes avant de les amener vers une destination inconnue. D'après les mêmes sources, 8 filles mineures figurent parmi les personnes enlevées. Ces informations sont confirmées par la société civile du territoire de Beni. Selon son président Teddy Kataliko, les auteurs de ces kidnappings appartiendraient au groupe armée dirigée par le général autoproclamé Hilaire Kombi. Le commandant du mouvement pour la restauration de la démocratie au Congo, MRDC, qui a des troupes dans cette zone, dit ne pas être impliqué dans cet enlèvement. Hilaire Kombi accuse plutôt un autre groupe armé sans les citer. La société civile du territoire de Beni appelle les autorités à la protection des civils. L'administrateur des territoires de Beni indique pour sa part que des assaillants ont été localisés à Kinzingi, un village voisin. Amissi Kalonda affirme que l'armée est à leur poursuite. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps au sud Kivu, les localités de Kasenya et Kacheke se vident depuis hier. Kasenya et Kacheke sont situées dans les moyens plateaux d'Ouvira au sud de Kivu. Information livrée par un notable de ces localités et confirmée par le chef de groupement Kigoma. Selon les sources locales, les habitants de ces localités craignent d'éventuelles représailles des rebelles burundais et du FNL. La situation de ces localités avec Gaius Chabilepin de la radio Le Messager du Peuple.
Les localités de Kasenya et Kacheke sont vides aux trois quarts depuis hier après-midi. Selon un des notables de ces localités, cela fait suite au message envoyé par des rebelles burundais du Front National de Libération aux habitants. Selon ces messages, les FNL menacent de s'attaquer à ces deux localités. Selon ces sources, dès l'annonce de la nouvelle, plusieurs habitants abandonnent leur maison pour se réfugier en brousse loin de leurs habitations. Toujours selon les notables, les FNL reprochent à ces habitants d'avoir signalé au FARDC les lieux de leur campement. Cette situation intervient trois jours après le retrait des éléments FARDC dans ce secteur, ceci après l'attaque des rebelles burundais, confirme la source. Pour rappel, il y a quatre jours, les FARDC se sont attaqués aux positions des rebelles burundais du FNL dans la localité de Mouchoulé, dans les moyens plateaux d'Ouvira. Les chefs des groupements de cette entité déplorent l'absence des FARDC dans les localités de Kasenya et Kacheke pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Les autorités FARDC contactées à Ouvira disent ne pas connaître la situation vécue dans ces localités après les opérations. Ouvira, Gaius Chabilepa de la radio Le Messager du Peuple pour la radio Okapi.
Direction la haie, il y a déjà 5 ans, Jean-Pierre Bemba était arrêté en Belgique où il résidait alors, puis transféré 40 jours plus tard à la Cour pénale internationale CPI à la haie, aux Pays-Bas. Poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, le sénateur Bemba subit son procès depuis bientôt 3 ans. Depuis la haie, le cheminement de ces 5 ans avec notre correspondante Stéphanie Maupas.
Sur la forme, le procès de Jean-Pierre Bemba est en quelque sorte une affaire à huis clos. Depuis son ouverture en novembre 2010, la majorité des témoins a déposé sous pseudonyme leur image brouillée, la voix déformée et une large partie de leur déposition a été entendue à huis clos. Sur le fond de l'affaire, l'accusation a appelé 40 témoins lors de la première partie du procès. Le procureur affirme que les soldats du mouvement pour la libération du Congo ont commis des viols, des meurtres et des pillages dont leur chef, Jean-Pierre Bemba, porte la responsabilité. Difficile à ce stade de savoir si le procureur a convaincu les juges, mais leur décision de requalifier juridiquement le niveau de responsabilité de Jean-Pierre Bemba il y a un an montre cependant que le dossier de l'accusation présenterait quelques faiblesses. En face, depuis août 2012, la défense tente de démontrer que Jean-Pierre Bemba a bien prêté main forte au régime de Patassé, mais qu'une fois qu'ils avaient posé le pied sur le territoire centrafricain, ces soldats étaient sous la responsabilité du régime de Bangui. Ils ne seraient donc pas responsables de leurs actes. Pour le démontrer, la défense avait prévu d'appeler 63 témoins, mais a dû revoir ses ambitions à la baisse en annonçant début mai le retrait de 13 d'entre eux, d'autant que les juges demandent aux avocats de boucler leur démonstration d'ici le 19 juillet. En 10 mois, seuls 19 témoins ont déposé pour l'accusé et nombre de ceux que Jean-Pierre Bemba veut convier à la barre résident dans des pays qui rechignent à coopérer avec la Cour. Ces difficultés ont considérablement alourdi un procès qui s'enlise depuis son démarrage. À la haie, Stéphanie Maupas, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Pour terminer, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, fête son 50e anniversaire demain samedi. Elle a été créée le 25 mai 1963 par 32 chefs d'État africains. Les célébrations du cinquantenaire de l'Unité africaine auront lieu demain samedi dans la capitale éthiopienne, où seront réunis les chefs d'État du continent et personnalités venues du monde entier, parmi lesquels le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Quel bel bilan dressant de l'existence de l'OUA 50 ans plus tard. Écoutez ce que pense le professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Il est au téléphone de Richard Junior Kamunga.
C'est un verre moitié vide, un verre moitié plein. L'OUA ou l'Union africaine ou l'Unité africaine, le panafricanisme africain, était d'abord une promesse d'avenir, une nécessité historique ressentie que l'Afrique doit assigner, pour répondre à l'expression d'un premier courant. Bon, c'est là, selon les aléas aussi de la conjoncture politique internationale, l'OUA a travaillé à ce que l'Afrique soit entièrement politiquement libérée et elle a fait aboutir la décolonisation. À présent, que la décolonisation pour toute l'Afrique a été décolonisée, il reste le combat qui ne figurait peut-être pas dans l'agenda du commencement. Eh bien, je crois que nous restons à attendre et que nous pourrons être à mesure de relever les défis de l'économie, les défis de la technologie, qui sont des défis en fait du siècle aujourd'hui.
Le professeur Philippe Bioya est l'invité de Radio Okapi à 7h33 heure de Kinshasa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.